Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Georges Chapoutier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste dans cette veille de Noël, c'est que vous venez de publier un livre d'entretien avec une journaliste scientifique, Françoise Tristany-Poteau, intitulé « Le chercheur et la souris » aux éditions du CNRS ou CNRS éditions. Cet ouvrage rend compte de votre rapport spécifique de chercheur et de neurobiologiste, non seulement avec ces animaux de laboratoire que sont les souris, mais également avec tous les autres animaux. Cette question du rapport homme-animal est à la mode, mais il faut vous rendre cette justice, Georges Chapoutier. C'est indépendamment de la mode que vous vous êtes intéressé à cette question, car toute votre œuvre tourne autour. Je rappelle que vous avez publié dès 1990 chez De Noël « Au bon vouloir de l'homme, l'animal », que vous avez fait paraître un que sais-je sur les droits de l'animal en 92, que vous avez publié en 97 « Les droits de l'animal aujourd'hui », qu'en 2001, vous avez publié chez Odile Jacob « L'homme, ce singe en mosaïque », en 2009, « Kant et le chimpanzé ». Bref, la liste est longue des ouvrages dans lesquels vous réfléchissez sur l'homme et l'animal. Alors pourquoi cet ouvrage aujourd'hui d'entretien mené avec Françoise Tristany-Poteau ?
Bien parce que quand on arrive à la retraite, ce qui est mon cas, on aime bien faire un bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a élaboré. Et il m'a paru plus intéressant, plutôt que de dire tout le temps « je », de le faire avec une collègue qui partage mes positions sur beaucoup de domaines, Françoise Tristany-Poteau, qui est philosophe d'origine et qui s'intéressait à la presse, aux médias. Et donc, qui m'a donné cette vision à ma carrière et à mes idées, une conception un peu distanciée, et en même temps, un style agréable, parce qu'elle écrit beaucoup plus agréablement que moi. Et donc, ça a donné un livre assez vivant et assez amusant à lire, je crois.
Oui, très agréable. Alors, une de mes premières questions va donc porter sur la formule utilisée par Derrida sur le rapport homme-animal. Derrida avait intitulé une conférence « L'animal que donc je suis ». Ma première question va porter sur cette formule. La trouvez-vous bonne ? Y souscririez-vous ? Et pourriez-vous nous dire, dans votre genèse, non pas tant psychologique qu'intellectuelle, comment et à quelle occasion vous, Georges Chapoutier, en êtes venu à faire de l'animal un lieu de questionnement ?
Oui, c'est deux questions un peu différentes. La première est une question scientifique, même à la limite. L'animal que donc je suis, depuis l'évolutionnisme et Darwin, personne ne met en cause le fait que l'homme soit un animal. Alors bien entendu, il faut le nuancer. La réponse c'est oui et non. L'homme est un animal, bien sûr. Il a toutes les propriétés physiologiques et comportementales des animaux, génétiques aussi. Il est issu de l'animal par l'évolution, c'est un animal, mais c'est un animal particulier. Par le fait qu'il a un cerveau extrêmement performant, il a dans le règne animal un statut un petit peu particulier qui fait que il est animal, mais il est aussi un petit peu en marge de l'animalité. Et donc, il faut savoir maîtriser ces deux aspects. L'homme est animal, Langanet a écrit cette formule superbe, il faut être animal et fier de l'être, mais il est aussi, évidemment, un animal particulier qui a des propriétés qui le distinguent des autres animaux, entre guillemets.
Très bien. Alors maintenant, vous, dans votre carrière, quand avez-vous rencontré cette question autour de l'animal ?
Alors, je sentais dire depuis toujours. J'ai été toujours très sensible aux animaux, j'ai toujours aimé les animaux. Je crois qu'il y a des gens qui sont plus portés que d'autres à cela. Je prendrais comme exemple ma fille aînée, qui a eu le même comportement que moi. Je me souviens quand elle avait 2-3 ans, qui est apparu à la télévision un dragon menaçant, bavant, etc. Et elle s'est précipitée vers lui avec un mouvement de sympathie. Je crois qu'il y a des gens qui, comme moi et comme ma fille, sont spontanément attirés par les animaux. Alors bien sûr, ensuite, il y a l'aspect social. Le fait que je sois intéressé par les animaux m'a amené ensuite à m'intéresser aux sciences naturelles, qui a été beaucoup encouragé par mon milieu universitaire et familial. Et donc, je me suis passionné pour les sciences naturelles, et de fil en aiguille, je suis devenu un chercheur de l'animal, ce qui m'a amené à terme à des questionnements, parce que la recherche scientifique trouve des choses très intéressantes à partir de l'animal, mais elle est amenée à malmener l'animal, à lui faire des piqûres, des choses comme ça, et donc ça posait des questions, jusqu'où et au nom de quoi avons-nous le droit de malmener l'animal pour notre connaissance ? Donc voilà, vous voyez comme cet intérêt pour l'animal s'enracine dans ma vie, mais évidemment, ensuite, il aboutit à des questions professionnelles.
Bien sûr. Alors, dans votre carrière, vous avez eu une double appartenance disciplinaire, puisque vous êtes à la fois neurobiologiste et philosophe. Comme d'ailleurs votre père, qui était lui aussi à la croisée de deux chemins, archéologue et helléniste. Mais votre double appartenance à vous me semble plus acrobatique dans un pays surtout comme la France où la bidisciplinarité n'est pas toujours appréciée. Alors, j'aurais deux questions sur cette double appartenance. D'abord, est-ce que ça a été plus compliqué d'appartenir à deux champs disciplinaires? Et puis ensuite, évidemment, conceptuellement, qu'est-ce que cette double appartenance vous a apporté?
Alors, sur le plan institutionnel, vous avez raison de dire que ça a été compliqué. Ou plus exactement, ça a été salué par une sorte de demi-vide. C'est-à-dire que au CNRS, j'ai fait toute ma carrière au CNRS, où j'étais chercheur en neurobiologie, on tolérait parfaitement que je fasse de la philo. C'était pas du tout infamant, c'était même valorisant. Mais valorisant sur un plan strictement, en quelque sorte, abstrait. Toute ma carrière, on m'a demandé, monsieur, qu'avez-vous fait en biologie? En d'autres termes, on a ignoré, sur un plan institutionnel, sur un plan promotion, sur un plan carrière, on a ignoré la partie strictement philosophique. En d'autres termes, la complication, elle n'est pas venue d'une complication technique, elle est venue du fait que les instances qui me jugeaient ne m'ont jugé que sur mon aspect biologique, puisque j'étais une commission de biologie, et on considérait que la partie philosophique, c'était quelque chose qui était
en plus.
Du ressort, du hobby, et sans plus. Ça n'a à la limite rien apporté en tant que tel à ma carrière. Alors pour la deuxième question, bien sûr, je suis un chaud partisan de la multidisciplinarité, je pense que c'est extrêmement fructueux. Alors vous dites que c'est plus acrobatique que ce qu'a fait mon père en tant qu'helléniste et archéologue, ça l'est sur le plan institutionnel, comme je viens de le dire. Sur le plan fondamental, c'est pas tellement extraordinaire de s'intéresser à la biologie et à côté à la philosophie de la biologie, puisque ce que je fais, c'est de la philosophie de la biologie. Donc c'est deux domaines qui sont quand même très proches. Donc c'est pas spécialement acrobatique sur un plan conceptuel.
Bien sûr.
Et bien sûr, c'est extrêmement riche parce que je pense que justement que les deux disciplines se nourrissent l'une de l'autre. Et en particulier en philosophie, j'ai beaucoup tiré profit de la réflexion que j'ai faite sur mon métier, sur mes activités, sur les organismes vivants que je côtoyais et sur les animaux et leur sensibilité pour la question des droits de l'animal.
Très bien. Alors, précisément, dans ce rapport que nous essayons de réfléchir sur le rapport entre l'homme et l'animal, la question, la frontière, vous paraît-elle une bonne formulation?
Oui, avec une réserve, si on considère que cette frontière est poreuse. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'homme qui est à la fois animal et non-animal par son activité culturelle intense et son gros cerveau, son puissant cerveau. Donc, il y a une frontière, bien sûr, mais elle est poreuse. Et j'ai envie de dire, elle est poreuse pour tout. Elle est poreuse pour les mécanismes physiologiques et génétiques, puisqu'ils se ressemblent beaucoup entre l'homme et l'animal. Elle est poreuse, vous le savez, pour les pathologies. Il y a une frontière. Bien sûr que certaines maladies ne passent pas facilement de l'homme à l'animal, mais certaines passent plus facilement. Donc, sur le plan pathologique, la frontière est poreuse. Eh bien, elle est aussi, cette frontière, sur le plan culturel. Je pense que entre l'homme et l'animal, il y a une frontière. Bien sûr, faut pas dire que l'homme est animal comme les autres, hein, bien entendu. J'adore les chimpanzés. J'ai passé une année avec les chimpanzés et je me sens très proche d'eux. Mais nous sommes des chimpanzés particuliers. Nous sommes des chimpanzés. Il y a quelqu'un qui a écrit le troisième chimpanzé en parlant des humains, mais des chimpanzés extrêmement particuliers, avec encore une fois un cerveau extrêmement puissant et juvénile, qui distingue des chimpanzés ordinaires, si j'ose dire.
Juvénile parce que plus récent dans son développement?
Alors non.
Juvénile, en quel sens?
C'est toute une thèse qui a été développée sur le fait que l'homme a une certaine juvénilité. D'abord, sur le plan physique, nous avons un look de fœtus de singe. Nous sommes des singes nus, sans poils, avec une grosse tête, de gros yeux. Donc, sur le plan physique, on ressemble à des fœtus de singes. Et sur le plan intellectuel, sur le plan cérébral également, on est extrêmement juvénile. Et c'est par ce fait-là qu'on s'adapte à tout. L'homme a un cerveau qui est non seulement très puissant, mais qui peut s'adapter à tout. Et cette juvénilité, on va la retrouver dans beaucoup de caractéristiques de l'homme. Une en particulier que je voudrais souligner, nous sommes des joueurs. On joue tout le temps. Toutes nos activités ont une part de jeu. Trois activités parmi les plus importantes de l'espèce humaine, la recherche scientifique, l'activité artistique et j'en cite deux, mais enfin, il y a probablement d'autres. Toutes ces activités ont une part de jeu. On aime bien jouer.
Très bien, très bien.
Oui, la troisième activité que j'aurais voulu citer, c'est l'activité sexuelle, qui aussi a une part de jeu chez l'homme. Nous sommes des joueurs, nous jouons tout le temps, et avec quelquefois des décisions que nous prenions qui ne sont pas rationnelles, parce qu'elles sont prises par le jeu.
Comment formuleriez-vous la question des droits de l'animal et du devoir de l'homme ?
pense que c'est la même chose. Beaucoup de gens jouent sur les mots en disant il n'y a pas de droit pour les animaux, mais il y a des devoirs pour l'homme. Mm-hmm. À mon avis, c'est une fausse question. D'abord parce que les droits de l'animal, ils existent déjà. Dans la loi, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire avec les animaux, et c'est très bien. Mm-hmm. Donc il y a déjà des droits pour les animaux, si vous voulez, en tant que tel. Mais le thème devoir et droit me paraît la même chose. En d'autres termes, quand je dis un homme n'a pas le droit de crever les yeux d'un chien, ça veut dire que l'homme a le devoir de ne pas crever les yeux, mais que le chien a le droit de ne pas les avoir crevés. En d'autres termes, là me paraît le symétrique de l'autre. Je ne vois pas de différence entre les devoirs que s'attribue l'homme et les droits qu'il donne aux animaux.
Mais vous êtes pour un renforcement juridique du statut de l'animal et de sa protection ?
Tout à fait. Parce que dans l'état actuel des choses, les animaux sont protégés dans un certain nombre de cas particuliers. Les espèces sont particulièrement protégées. Les animaux de compagnie, les chats et les chiens, sont très protégés. Dans une moindre mesure, les animaux domestiques. Mais par exemple, l'animal sauvage n'est pas protégé du tout. Alors ça donne des trucs. Je vais donner par ailleurs un exemple un peu aberrant. Un faisan, par exemple. Tant qu'il est dans la basse-cour, on n'a pas le droit de lui soumettre à des atrocités. Parce que cet animal, sous l'emprise de l'homme, il s'échappe, il passe dans la nature, il devient sauvage, on peut faire ce qu'on veut. En d'autres termes, le même animal avec la même sensibilité n'a pas les mêmes devoirs, ou l'homme n'a pas les mêmes droits vis-à-vis de lui. L'animal n'a pas les mêmes droits, mais l'homme n'a pas les mêmes devoirs vis-à-vis de lui, s'il est domestique ou s'il est sauvage.
Mmh. Vous pensez que l'animal est une personne, Georges Chapoutier ?
Alors, ça dépend quel animal d'abord. Hein.
D'accord.
Je ne pense pas que l'éponge ou le ver de terre soient une personne.
Très bien. Mais évidemment, nous parlons des animaux.
Les animaux les plus évolués, disons les animaux encéphalisés,
oui.
En gros les vertébrés,
oui.
et quelques invertébrés comme les pieuvres. Oui, je pense qu'on peut dire que ce sont des personnes dans la mesure où un animal a une vie individuelle, une histoire individuelle, différente de son voisin. Donc il a une certaine, entre guillemets, personnalité. Mais quand on dit ça, il faut faire une chose, parce que personne s'amène à des questions juridiques. Il y a un point qu'il faut souligner qui est essentiel. Il faut bien dire que si les animaux sont des personnes, ce ne sont pas des personnes humaines. Il faut bien marquer la coupure entre la personnalité animale et la personnalité humaine.
Et d'ailleurs, en Inde, aujourd'hui, est revendiqué un statut pour les dauphins de personnes non humaines.
Voilà, mais il n'y a pas qu'en Inde. Ce thème de la personne non humaine est étudié par un certain nombre de juristes, y compris en France.
Et quels seraient les enjeux d'un tel statut juridique ?
De donner davantage de protection aux animaux qu'ils n'en ont actuellement.
D'accord. Bon, alors, Georges Chapoutier, j'ai coutume de poser la question à mes invités de savoir pourquoi ils sont rationalistes. Or, comme je vous sais, membre de l'Union rationaliste, je vous pose la question. Pourquoi, Georges Chapoutier, êtes-vous rationaliste ?
Alors, il y a deux degrés. Le scientifique que je suis est d'abord partisan de la rationalité. Voir le monde d'une façon rationnelle, c'est quelque chose auquel le scientifique est accoutumé, et je pense qu'il faut savoir voir le monde de façon rationnelle. Le monde, qu'est-ce que la vérité en quelque sorte ? Alors bien sûr, ça n'exclut pas de passer de temps en temps dans l'irrationnel. On a le droit, par exemple, d'aimer la poésie. Seulement, il faut bien savoir que la poésie, ça n'est pas la vérité. Il y a la distinction entre la vérité et le rêve. Je prends un exemple que j'aime bien citer. Pour le scientifique, la Terre est une planète bleue, ça c'est la vérité. Pour le poète, ça peut être une terre bleue comme une orange, mais bien entendu, à ce moment-là, on quitte le réel et la vérité. Ça, c'est l'aspect rationnel. Maintenant, le rationalisme, c'est un militantisme en faveur de la rationalité. Mais je suis de ceux qui pensent que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a trop de gens qui abusent dans l'irrationnel et qui veulent traiter la vérité comme quelque chose d'irrationnel. Je pense aux gourous, aux ennemis de la science, etc. Et donc, je pense que les gens qui sont partisans du rationnel doivent se défendre et constituer une structure comme l'Union rationaliste.
Très bien. Mais alors, dans votre réflexion sur le rapport homme-animal, la question que je voudrais poser, c'est peut-être aussi à l'éthologue. Quel est justement le statut particulier de la raison et comment...
Oui, alors bon, en ce qui concerne ce problème de l'animal que nous avons évoqué,
oui.
Je pense que le rationnel, le partisan du rationnel et le rationaliste doivent se rendre compte que l'animal est un être sensible, qu'il est proche de nous. Enfin, je parle des animaux les plus évolués, hein, les vertébrés par exemple, hein, ou les pieuvres. Donc cet animal, la raison doit nous faire comprendre, la raison et la science doivent nous faire comprendre que ce sont des animaux qui sont très proches de nous, qui ont une sensibilité, qui ont des comportements assez proches des nôtres, et souvent une intelligence pas si loin de la nôtre non plus. Et donc, cela doit nous amener à davantage de morale vis-à-vis d'eux. Donc, pour des raisons rationnelles, je pense qu'il faut davantage respecter l'animal et davantage lui donner des droits.
Vous avez d'ailleurs, dans votre livre et dans vos ouvrages, fait une... tripartition philosophique du rapport de l'homme à l'animal, pour terminer par l'animal, sans être sensible. Est-ce que vous pourriez la rappeler aux auditeurs de France Culture ?
Est-ce que vous voulez... quelle tripartition vous voulez, entre les différents groupes d'animaux ?
Non, entre les différentes pensées que les philosophes ont développées.
Oui, alors bon, il y a eu trois grandes façons de voir l'animal dans la civilisation. Il y a eu l'animal petit homme, qui est la position la plus répandue. Il considère que l'animal, c'est une sorte de petit homme. Je pense aux procès d'animaux au Moyen-Âge, mais aussi à des quantités de considérations dans l'animal dans les grandes civilisations. Et puis, à l'opposé, il y a l'animal-objet, défendu par Descartes et ses successeurs, qui fait une coupure absolue entre l'homme et l'animal. Et la troisième position, qui est la seule raisonnable aujourd'hui, la seule défendable à mon avis, c'est l'animal être sensible, proche de l'homme, sans être exactement son identique.
Ce qui signifierait peut-être que dans les rapports de l'homme à l'animal, il y a eu pendant, et existe aussi encore aujourd'hui, des rapports très irrationnels, des
bien
projections
sûr,
très irrationnelles.
Je pense que les deux conceptions, l'animal identique à l'homme et l'animal objet, ce sont deux conceptions, à la limite, irrationnelles. Tout à fait. La raison étayée par les connaissances de la science d'aujourd'hui montre que la seule position correcte, c'est l'animal être sensible.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez, de votre côté, lutté contre les expériences sur les animaux, enfin, tenté de protéger le statut de l'animal de laboratoire ?
Pas lutter contre les expériences, que je pense que la recherche scientifique est utile. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans la recherche scientifique actuellement, et là, il faut lutter pour ça, qui se résume par la fameuse règle des 3 R, hein, réduire, remplacer, raffiner, réduire le nombre d'animaux, remplacer quand c'est possible, raffiner les expériences. Donc, il faut améliorer en quelque sorte la recherche scientifique sans, je crois, dans l'état actuel des choses, pouvoir la supprimer.
C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission, Georges Chapoutier. Je vous remercie.
Merci de m'avoir reçu.
Je remercie Dany Journeau et Michel Mestre qui ont rendu possible cette émission. Je signale qu'il est toujours possible aux auditeurs de France Culture d'aller sur le site de l'Union Rationaliste. Et je vous dis... bonne fête de Noël au mois prochain !